Professeur Didier Raoult, bonjour.
Bonjour.
Et merci de rejoindre les Contrariantes aujourd'hui. Didier Raoult, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses, professeur de microbiologie à la Faculté de médecine et à l'Institut Hospitalo-Universitaire de Marseille. Vous êtes le co-auteur de milliers de publications scientifiques et l'un des chercheurs français les plus cités dans la communauté scientifique internationale. Cette année, vous avez acquis une grande notoriété quand, avec votre équipe, vous avez proposé un traitement contre le Covid-19 à base d'hydroxychloroquine. S'en est suivi un large débat entre vos détracteurs et vos soutiens qui continue aujourd'hui. Mais le Covid-19 n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Nous inaugurons en effet avec vous nos entretiens décalés où des personnalités connues et reconnues viendront évoquer une facette de leur travail importante mais moins médiatique. Avec vous, nous allons parler aujourd'hui épistémologie. C'est ainsi qu'on désigne l'étude critique des sciences, une matière que vous enseignez également. Sur ce sujet, vous avez publié en septembre dernier chez Humaine Science, « La science est un sport de combat ». Vous y décrivez la démarche scientifique et y défendez la science telle qu'il faudrait selon vous la pratiquer au XXIe siècle, dont vous dites qu'il est l'équivalent dans la recherche en biologie de ce qui s'est passé pour la géographie au moment de la Renaissance. Un livre qui se lit d'une traite et où vous alternez philosophie, analyse de phénomènes de société et anecdotes. Si je devais résumer ce qui m'a le plus frappé dans cet ouvrage, c'est qu'il semble dire quelque chose d'assez différent de ce qu'on dit de la science et notamment de ce qu'on en apprend à l'école. Je me rappelle par exemple ce cours de philo en terminale sur la science et la religion, où on apprenait grosso modo que la science est le domaine de la connaissance rationnelle et objective, et la religion, celui de la croyance irrationnelle et subjective. Mais vous écrivez, vous, que, je cite, « Sans le doute, il n'y a pas de pensée. Le scepticisme est intrinsèque à toute forme de science. » Les ayatollahs et les inquisiteurs doivent rester dans leur champ qui est celui de la religion. La science ou la pseudoscience peut devenir aussi arrogante et aussi excessive que les religions. Alors pour commencer, j'aimerais tout simplement vous demander ce qu'est la science pour vous et ce qu'elle n'est pas. Et d'ailleurs, la médecine est-elle une science ?
Alors je ne sais pas si je sais ce que c'est que la science, je sais ce qu'est la connaissance. Voilà. Donc on établit la connaissance à un moment donné, essentiellement par l'observation, et par l'observation en utilisant les outils qui sont disponibles à un moment de l'histoire de l'humanité. En fonction des différents moments de l'humanité, bien entendu, les outils permettent de voir des choses qui sont différentes, et donc d'élaborer des théories qui permettent de rendre compréhensible l'ensemble des observations à un moment donné. Mais c'est Brecht qui dit ça, la science est fille du temps, et donc, avec le temps, les concepts scientifiques changent et doivent se transformer du fait de la connaissance. Je vais vous donner un exemple que j'ai pris plusieurs fois dans ce livre, pour des raisons qui sont pour moi la séparation entre la religion et la théorie scientifique, qui est une des grandes questions de l'épistémologie, c'est comment on distingue ce qui est de la religion de ce qui est de la science, et qui était l'essentiel de l'ouvrage de Karl Popper. C'est si je ne peux pas envisager d'avoir une expérience qui dit le contraire de ma théorie a cessé d'être scientifique pour devenir de la religion, et il appliquait ça à trois domaines à l'époque. Il faut voir, on était dans la première partie du XXe siècle, au marxisme, puisque les marxistes pensaient que le matérialisme dialectique était une science et non pas une théorie philosophique ou un choix philosophique, à la psychanalyse, les psychanalystes pensaient que la psychanalyse était une science qui était difficile à dépasser, et à l'évolution darwinienne. Quand il a dit ça sur l'évolution darwinienne, il a dû mettre quelques pas en arrière parce qu'il se retrouvait avec l'ensemble du monde scientifique de l'évolution qui disait on n'a pas le droit. Darwin était devenu tellement tabou scientifiquement, une telle marque de différence entre la science et la croyance, qu'il était devenu intouchable. Mais bien entendu, il avait raison. Et la deuxième partie du XXe siècle a montré que toute l'organisation darwinienne est une organisation qui, en réalité, était post-biblique. Et son organisation, c'était Adam et Ève et la généalogie avec un arbre vu à partir d'Adam et Ève. C'était pas vrai. L'arbre de vie, c'est un terme biblique. J'ai trouvé qu'il était très, très intéressant de voir. Et maintenant, on sait qu'en réalité, tous les organismes vivants actuellement sont des mosaïques de gènes venus de différentes sources. Et donc, il n'y a pas d'Adam et Ève. Et ça nous a amené à voir des choses qui sont très très différentes de ce que voyait Darwin, et en particulier cette mosaïque. Il y a un exemple très important, je crois que je rapporte dans ce livre, qui est cette vision de Darwin et de l'arbre de vie avec des espèces qui évoluent au bout d'une branche nous avait amené à penser, et c'est tellement fort que même actuellement c'est difficile de changer cette notion-là, qu'il y avait un homme, l'Homo sapiens, qui a fait disparaître Néandertal et tous les autres hominidés, et que nous, on est les équivalents d'Homo sapiens, et bien entendu, c'est entièrement faux. On sait maintenant que tous les Européens et tous les habitants de l'Eurasie sont des mélanges de Néandertal et de Cro-Magnon, ce qui est d'ailleurs assez difficile à expliquer, parce qu'on a entre 2 et 4% de Néandertal, et on ne sait pas pourquoi on a 2 et 4%, ce qui veut dire qu'il y a dû y avoir une restriction très très profonde, une destruction massive de la population, qui était une population mélangée. Mais on ne pouvait pas l'imaginer, parce qu'on imaginait que Néandertal était sur une branche, et que Sapiens était sur une autre branche, et que tout ça ne se mélangeait pas, et c'est la génétique qui a mis fin à ce débat, qui avait été tranché idéologiquement, parce qu'en réalité, on voyait, quand on regardait même les crânes, en réalité, il y a des formes intermédiaires. Donc, c'est une idéologie qui a aveuglé pendant un certain temps les gens, même de l'observation de ce qu'ils avaient, et qui a explosé tardivement sous la puissance de la génétique. Mais c'est seulement depuis 3-4 ans que même dans les meilleurs journaux scientifiques du monde, on ne dit plus les hommes modernes en parlant des sapiens sapiens, ou des Cro-Magnons, et on dit des hommes morphologiquement modernes, parce qu'on sait que génétiquement, c'est pas vrai. Vous voyez, c'est typiquement un outil qui vous oblige à montrer que voilà, c'était à un moment une étape de l'histoire, et bien c'était pratique de voir les choses comme ça, mais ça devient très très difficile d'en sortir, et c'est un phénomène qui est religieux. Mais voilà un exemple qui montre que c'est inexact, la religion nous oblige à penser d'une certaine manière, parce que la religion, c'est notre culture. Je disais, quand j'ai reçu le Grand Prix de l'Inserm, il y a une dizaine d'années, le discours que j'ai fait, c'est « Attendez-vous sur l'évolution aux plus grandes surprises, parce que maintenant que les Chinois et les Indiens rentrent dans la science, ils font semblant de croire à notre phénomène vertical darwinien, mais en réalité, ils pensent à des phénomènes circulaires. Et donc, ces phénomènes circulaires que décrivait Nietzsche, mais que décrivait un certain nombre de philosophes grecs aussi, sont la base de leur pensée, et donc leur manière de voir l'évolution sera une manière qui sera radicalement différente de notre, qui sera du recyclage de morceaux de séquences, et non pas une évolution et un perfectionnement, si vous voulez, des différentes espèces.
Notre époque regorge d'appels au consensus scientifique, mais comme vous le rappelez très justement dans votre livre, le consensus est une notion en fait très peu scientifique, et l'avancement des sciences se fait par la controverse, la bataille acharnée de l'hypothèse contradictoire. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a un tel décalage entre l'idée qu'on se fait de la science et la science telle qu'elle se fait, en fait ?
Moi, je pense qu'on a épousé au XIXe siècle, nous, en Occident, une néo-religion qui est la religion positiviste, hein, qui est une religion scientiste. Cette pensée-là était une pensée dominante et qui a été une pensée qui excluait les domaines culturels et les variations interindividuelles de pensée, et a été associée à une poussée économique et technologique extrêmement puissante, qui est un peu en bout de course d'ailleurs, et qui explique un certain nombre de tensions dans notre monde. Tout le monde a fini par faire la science. Moi, j'ai été surpris plusieurs fois par des journalistes en train de me dire « Mais enfin, c'est pas de la science, ça !» J'étais sidéré que quelqu'un me dise ça à moi. Vous voyez, donc, c'était extrêmement étonnant. Et donc, moi, je rappelle, c'est Hannah Arendt qui dit ça. Elle dit « N'oubliez jamais que Descartes ne commence pas par dire « cogito ergo sum », il commence par dire « dubito ergo sum ». Et donc, c'est parce que je doute que je suis. Pour suivre, si vous voulez, vous n'avez pas besoin d'un cerveau, hein, il suffit d'une moelle épinière. Donc, le cerveau, ça sert à douter, ça sert à ne pas être d'accord, ça sert à réfléchir, et donc ça sert pas à incurgiter, si vous voulez. Et donc, c'est tout le problème, c'est qu'on donne des notions scientifiques qui sont déjà dépassées au moment où on les enseigne, si vous voulez, et donc les gens prennent ça pour de la connaissance qu'ils opposent aux ignares, mais en réalité, ce qu'on leur a donné comme connaissance est déjà faux. Moi, je fais mes cours en science en disant ce que je vous dis est faux, et c'est faux parce que si je vous disais ce que je pense, ça serait trop compliqué, et ensuite de ça, ce que je pense sera faux de toute manière dans les années à venir. Et par exemple, c'est essayer d'expliquer un jour ce que c'est que la physique quantique à des gens qui sont allés à l'école et qui pensent connaître la science, et vous serez désappointé, hein.
Il y a une des phrases que je préfère dans votre livre, c'est vous écrivez « Un scientifique ne devrait jamais être conventionnel, sauf à considérer qu'il n'est plus partie prenante de la recherche ». Mais comme vous le mentionnez, en fait, la petite cuisine de la science, avec ses publications validées par les pairs, sa structure très mandarinale, concocte un écosystème qui est favorable aux conformistes, si ce n'est aux peureux. Et comment est-ce que vous pensez qu'on peut changer cela ?
Pour être un bon chercheur, il faut avoir une mélange de créativité artistique, si vous voulez, et être un sportif de haut niveau. Vous ne pouvez pas vous contenter de découvrir quelque chose. Ensuite, il faut le faire vivre. Et le faire vivre est un combat. Voilà, donc c'est un vrai combat. Et ce combat-là passe par toutes les phases du combat. Parmi les gens qui ont analysé ça de la manière la plus radicale, c'est-à-dire la plus récente, pour moi, comme la plupart des gens, il y a les trois grands épistémologistes dans le XXe siècle, hein, Karl Popper, Thomas Kuhn, et puis le plus révolutionnaire qui est contre la méthode. On finit en disant tout est bon. C'est-à-dire, et c'est ce qu'on voit, on vit toujours avec un peu de délai par rapport aux gens qui ont métabolisé et pensé les choses, c'est qu'on voit maintenant des gens qui ont peu ou pas de formation scientifique, en particulier dans cette crise, qui utilisent leurs outils et qui participent au débat scientifique. Ça veut dire que la science passe par tous les chemins. Elle peut passer par des professionnels de la science, elle peut passer par des journaux scientifiques de haut niveau. Souvent, si vous voulez, les données vraiment révolutionnaires ne passent pas par les grands journaux scientifiques qui, ne serait-ce que parce qu'ils n'arrivent pas à trouver de gens qui puissent reviewer un article sur un champ nouveau, puisqu'il n'y a pas de gens qui connaissent les champs nouveaux, par définition. Et donc, ça passe souvent par des journaux qui sont soit des journaux marginaux. Maintenant, ce qui est vraiment nouveau, c'est les préprints, voire les sites individuels, voire les sites de blog, si vous voulez, par lequel va passer une partie de la science qui va se révéler, je crois, extrêmement productive. Je ne crois pas que le monde soit mandarinal. Il était mandarinal il y a 50 ans. Actuellement, il est normatif. Les mandarins ne sont pas normatifs. Hein. Je vous donne un exemple. Le meilleur journal qui était très, très bon, c'était le Proceedings of the National Academy of Science, qui était fait d'académiciens américains qui décidaient tout seuls, je le publie, je ne le publie pas. Et donc, ils demandaient l'avis de personne. Ils disaient, tiens, ça m'amuse, ça m'excite. Et donc, vous aviez une variabilité extraordinaire. Mais avec le système pondéré par les... Ils ont été très, très critiqués parce qu'ils n'étaient pas revus par les pairs. Et donc, on leur a dit qu'ils ne pouvaient pas rester comme ça. Et donc, ils demandent à avoir, un peu comme dans les projets de recherche que l'on a, à avoir deux ou trois reviewers qui mettent tous les trois que c'est A. Et quand c'est ça, vous ne pouvez pas avoir un truc de haut niveau. Vous pouvez avoir des gens de bon niveau, mais vous ne pouvez pas avoir de choses révolutionnaires parce que vous n'aurez jamais trois personnes qui seront d'accord pour dire que quelque chose de révolutionnaire est important. Ce n'est pas possible. Et au contraire, il y a ceux qui sont au-delà de tout. Si vous voulez, ils s'en foutent. Ils n'ont pas de rivalité. Ils ne sont pas irrités par des idées qu'ils n'ont pas eues. Je crois qu'au contraire, il y a une normalisation du fait de la densification de la recherche. La recherche, il y a un nombre fou de gens qui font de la recherche. Et donc, il y a une normalisation de la recherche qui fait que la recherche originale a moins de place qu'elle n'en a eu avant.
Tout à fait, mais si on n'a pas de révision par les pairs, est-ce qu'on ne s'expose pas au pire comme au meilleur ? C'est-à-dire qu'on va avoir des éclairs de génie, est-ce que vous décrivez des gens vraiment créatifs, mais on pourrait aussi avoir des charlatans, c'est-à-dire les études culturelles, toutes les études postmodernes qui ont fleuri dans les dernières décennies et qui, certes, sont très créatives, mais ont parfois un lointain rapport avec la réalité. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Qu'est-ce que ça peut faire ? C'est pas important. Si vous voulez, le temps dans la science, si vous voulez, j'expliquais ça à propos de la crise actuelle, vous savez, il y a des temps différents. Le temps du journalisme ou de la discussion actuelle, c'est un temps, mais c'est un temps très bref, si vous voulez. Ça a pas, pour la science, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, il y a un temps de décision qui est un temps un peu plus long, puis il y a le temps de la science qui est un temps long. Et donc, si vous voulez... ça n'a pas beaucoup d'importance. Le nombre de choses, moi j'étais beaucoup plus irrité quand je voyais des choses qui étaient idiotes, qui étaient publiées. Vous savez, elles ont disparu avec le temps, donc c'est pas très grave. C'est embêtant pour vous parce que vous savez pas faire le tri au moment où vous en parlez, c'est-à-dire au moment où ça sort. Mais pour moi, je m'en fiche, si vous voulez. Donc le temps trie les choses. Et d'ailleurs, moi, beaucoup des papiers qui sont très importants pour moi et qui sont... important pour les gens qui lisent la science, ont mis un temps parfois important avant d'être accepté comme tel. C'est la vie scientifique qui est comme ça. Donc c'est pas très grave. Le temps trie beaucoup et dans le temps, ce qui est surtout important, c'est de pas avoir de censure, de blocage, si vous voulez, de l'émergence de pensées nouvelles ou de découverte, et ça, c'est vraiment extrêmement important et donc je pense qu'il réémerge avec des tentatives de publications comme PLOS ONE ou Frontiers par exemple ou Scientific Report, qui étaient des publications qui au départ ne devaient regarder que les méthodes. Donc elles devaient dire, écoutez, est-ce que les méthodes sont raisonnables, est-ce que les gens qui ont fait ça ont utilisé des méthodes qui sont compréhensibles, et s'ils ont eu des méthodes compréhensibles, alors leur opinion ou la priorité de leur découverte, ça n'est, personne n'est capable de la juger. Mais petit à petit, ces journaux, donc parce que tout vieillit, ces journaux ont commencé aussi à trier, non pas sur simplement le fait que la méthode était correcte ou pas, mais le fait de l'opinion de l'éditeur, parce que c'est difficile de se passer d'avoir une opinion sur les choses. Et donc c'est pour ça que déjà cette génération, qui n'est pas vieille, hein, qui a 10-15 ans, est déjà dépassée par les préprints dans lesquels il y a très très peu de censure, mais elle commence à se mettre aussi en place, elle commence à se mettre de la censure sur les préprints les plus courus, vous voyez. Donc c'est très difficile d'empêcher, dès qu'il y a une chose comme ça, quelqu'un de prendre le pouvoir pour laisser passer que les choses qui lui paraissent correctes intellectuellement et non pas correctes techniquement. Vous voyez, donc moi je crois que il faut laisser passer ce qui est correct techniquement, même si on n'est pas d'accord. Donc c'est ce que je pense, parce que je pense que c'est comme ça que la science avance. Regardez, l'histoire que tout le monde connaît, l'histoire de Christophe Colomb, son histoire n'était pas très facile à croire. Ce qu'il a trouvé, c'est pas ce qu'il cherchait, et tous les gens qui étaient rationalistes disaient qu'il fallait pas aller le faire. C'était comme ça, parce que c'était contraire à toutes les cartes qui étaient écrites.
Oui, alors justement, vous parliez de censure. Dans votre livre, vous consacrez plusieurs passages à l'épidémie du sida et à la façon dont la prophylaxie a souffert du politiquement correct. C'est-à-dire que les populations les plus à risque, les hommes pratiquant le coït anal réceptif avec d'autres hommes, n'ont souvent pas été proprement ciblés. Alors, pouvez-vous nous expliquer comment ce genre de tabou peut être nuisible à la science et à la médecine en particulier ?
Je pense que la santé publique, c'est très compliqué. Les messages de santé publique sont très compliqués. Par exemple, on a vu chez les prostituées au Kenya, j'avais bien compris qu'il fallait mettre des préservatifs, mais il y a une confusion préservatif entre la protection de la grossesse et la protection des maladies transmissibles. Et donc, quand elles n'avaient pas de préservatif, elles se faisaient sodomiser, ce qui fait qu'il y avait beaucoup plus de gens HIV positifs. C'est un vrai tabou, et il y avait deux approches qui étaient très différentes dans les associations de patients. Il y avait des gens qui disaient « il faut surtout pas parler de ça parce que c'est stigmatisant ». Et puis, il y avait ACT UP, moi j'étais assez proche intellectuellement d'ACT UP, qui disait « écoutez, moi, je préfère être stigmatisé que mort. » Et donc, il faut appeler les choses par leur nom de manière à éviter que les gens soient infectés, ce qui est prioritaire. Et donc, on sait que c'est 20 fois plus contaminant le coït réceptif anal que les autres formes de sexualité, donc il faut le savoir. Là, ça veut dire que dans le coït réceptif anal, il faut vraiment avoir des préservatifs. Et donc, à chaque fois, mais c'est un des problèmes de la santé publique ou de la simplification des messages, parce qu'il y a des effets collatéraux à ces messages trop simples. Donc, il y a une partie de la population qu'on n'a pas du tout protégée, qu'on n'a même pas investiguée. Hein, pour la vérité, on ne posait même pas la question aux femmes qui étaient séropositives et hétérosexuelles de savoir si elles avaient eu des rapports sexuels anaux ou pas, parce que c'était tabou. Donc, il y a une vraie question, qui est une question sociale, qui est, est-ce qu'on a le droit de parler de ça ou pas ?
Donc, pour revenir juste sur le sujet précédent, sur les études fantaisistes, vous dites, ce que j'entends parfaitement, hein, que le temps fera son œuvre, etc. Mais le problème dans le genre de domaine que mentionnait Laetitia, c'est qu'en fait, on est sur du non falsifiable. Donc, les choses peuvent durer des lustres sans que personne n'y mette un frein, mais qui n'est pas du tout un frein de censure, qui est juste que on voit que ça marche pas et on va dans une autre direction. Donc, je pense que de tout ce qui est aujourd'hui, les sciences humaines très inspirées, la théorie critique, du postmodernisme, etc. Je crains que votre optimisme soit, je ne sais pas comment dire, enfin vous voyez quoi.
je ne sais pas de qui vous voulez parler, le postmoderne m'ont moi-même beaucoup influencé. Je ne suis pas sûr que je sois d'accord avec vous. Je pense que Foucault, par exemple, vous voyez, est considéré partout dans le monde, sauf en France, comme étant le plus grand penseur de la loi depuis Montesquieu. Hein. Foucault, vous savez, le chercheur le plus cité de tout le XXe siècle.
Bien sûr.
Mais Foucault ne prenait pas à la lettre tout ce qu'il disait. Foucault disait, si je vous ai obligé à réfléchir, j'ai fait mon métier. Il écrivait ça, et bien sûr, il avait raison. Dans ce qu'il dit, une quantité de choses sur lequel je ne le suis pas du tout. Mais il n'empêche qu'il soulève des questions très intéressantes et auxquelles on ne pensait pas avant. Moi, je pense, par exemple, j'ai une énorme estime, quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, si vous voulez, qui est Baudrillard, si vous voulez, qui a défini le monde dans lequel on vit, dans la fin des années 70, si vous voulez, dans Simulacre et Simulation, dans lequel il montre que le monde digital de l'information est déconnecté à un point absolument invraisemblable de la réalité, c'est-à-dire que le reflet de la réalité qui passe par le monde digital n'a qu'un lien qui est de plus en plus distinct de la réalité. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire de TripAdvisor, qui est un exemple absolument extraordinaire. Il y a des farceurs qui ont inventé un faux restaurant à Londres parce qu'ils avaient été payés par TripAdvisor pour faire monter les cotes des restaurants. Mmh. Et donc, ils ont inventé un faux restaurant qui ne prenait les gens que sur réservation, et ils ont commencé à mettre des recommandations sur ce restaurant. Au bout de 6 mois, ce restaurant était numéro 1 de TripAdvisor. Mm-hmm. Vous voyez que la chose qui était anticipée par Baudrillard en 78 sur Simulacre et Simulation, ou par les gens qui ont fait de la science-fiction, parce que les gens qui ont fait de la science-fiction ont eu une contribution à la vision de l'évolution de la société qui me paraît plus importante que les sociologues de l'époque, hein. Donc, l'imagination dans la capacité à voir ce qui est faisable ou ce qui ne l'est pas a toujours été une chose extrêmement importante. Hein. Et la seule manière de le faire, effectivement, c'était d'attaquer radicalement une vérité pour voir s'il y a quelque chose, un trésor à trouver à la base de cette vérité. Parce que si on trouve quelque chose qui est radicalement distinct de la vérité acceptée par chacun, alors c'est vraiment très important.
Pour une question un peu plus d'actualité, vous êtes abondamment cité dans le documentaire Hold Up, donc qui laisse entendre que la pandémie de Covid-19 a été artificiellement créée par les plus riches pour contrôler et exterminer les plus pauvres. Comment est-ce que vous vivez d'être ainsi en fait célébré par des complotistes, alors que le propos que vous développez dans votre livre est en fait totalement aux antipodes de ce genre de finalisme hyperbolique et paranoïaque ?
Je m'en fous. Je ne l'ai pas vu et je m'en fiche. Globalement, ce qu'on dit de moi ou ceux dans quoi on m'intègre, ou la manière dont, vous savez, il y a même un truc de rap qui est devenu incroyablement célèbre, un sosie de bois qui vend de la chloroquine, je trouve ça amusant, je m'en fiche. Voilà. C'est pas plus grave que, si vous voulez, les gens qui racontent des horreurs sur la médecine sans rien y connaître, c'est pas plus grave.
Ouais. Et justement, tout à l'heure, vous parliez aussi d'Homo sapiens et Néandertal, en disant qu'en fait, les légendes bâties sur ce sujet, sur Homo sapiens qui aurait détruit les autres hominidés, ne résistent plus aux faits. Ce qui est amusant, c'est que c'est peu ou prou la thèse d'un best-seller international qui s'appelle Sapiens, justement, de l'historien israélien Yuval Noah Harari, selon lequel la supériorité biologique de Sapiens lui aurait donné l'avantage dans la compétition darwinienne avec les humains plus archaïques.
C'est une énorme connerie, cet idiot.
Mais justement, je voulais vous demander ce que vous pensiez de ce livre et de son succès.
Une fois, il y a peut-être 10 ans... On m'avait invité à une émission de TV5 dans la journée de la science, là, pour la science. On m'avait demandé avec qui je voulais dialoguer. J'avais demandé que ce soit mon ami Jean-Laurent Casanova, qui était un généticien, qui est toujours aux États-Unis. Et puis, juste avant moi, il y avait le paléontologue du Collège de France, s'appelle Pic,
oui,
qui racontait cette légende-là, vous voyez, que j'ai entendue très bien plusieurs fois. Et quand on m'a demandé ce que je pensais de ce qui se passait au XXIe siècle, vous voyez, ce qui se passe au XXIe siècle, c'est tout ce que vous a raconté ce monsieur avant, c'est pas vrai, voilà, c'est pas vrai du tout. Le premier papier vient de sortir, on s'en doutait depuis un moment, depuis les analyses de mitochondries, mais c'est pas vrai. En réalité, tous les hommes qui vivent en Eurasie sont des mélanges de l'homme de Cro-Magnon et de l'homme de Néandertal, et donc c'est pas vrai. En réalité, ils ont copulé. Comment, ça c'est une espèce de mystère scientifique qui est... probablement celui qui l'explique le mieux en termes d'évolution, c'est Jay Gould, que vous avez peut-être lu. Il y a des bottlenecks, des goulots d'étranglement massifs, sans doute par les infections, peut-être par d'autres catastrophes, qui tuent 99,99% d'une population, et il reste un petit groupe, et ce petit groupe se remet à reconstituer les choses. Donc c'est la seule manière que je vois de comprendre comment tous les humains de cette partie du monde sont tous des mélanges d'un peu de Néandertal et de beaucoup de Cro-Magnon. Mais bien entendu, à d'autres endroits, mais peut-être que lui ne savait pas, il y a jusqu'à 30 ou 40% de Denisova chez les Mélanésiens, si vous voulez. Bon, là, il y a un très gros papier qui vient de sortir sur les génomes humains. On voit qu'il y a au moins 2 hominidés inconnus qui se sont mixés avec les Européens, dont on ne sait pas ce qu'ils sont. Et pour l'instant, on voit que en Afrique subsaharienne, il n'y a pas eu de mélange avec d'autres hominidés connus. C'est le seul endroit. Donc tout ça est très compliqué, y compris l'apparence, la manière dont les gens ont déduit l'origine par l'apparence, était une origine qui était très profondément biaisée par le racisme sous-jacent du darwinisme. Le darwinisme, c'est du racisme anglais. Il faut lire l'origine de l'homme de Darwin, qui est oublié, pour comprendre que toutes les théories racistes, ça culminait avec c'est le plus fort qui est le plus compétent qui domine le monde. C'était Rule Britannia. C'est l'enfant de ça et de la Bible.
Il y a un passage dans votre livre sur les différences hommes-femmes que j'ai trouvé vraiment passionnant. Et vous écrivez « Mon hypothèse est que le réajustement de la place des femmes dans la société est lié à la diminution de la mortalité infantile. » Alors pourquoi ce facteur est-il si peu mentionné dans les débats actuels sur l'émancipation des femmes, à votre avis ?
Il y a des phénomènes qui sont biologiques qui s'imposent à nous. Vous prenez une femme au 19e siècle, elle avait 10, 12 grossesses, dont elle mourait en couche relativement tôt. Si elle ne mourait pas, elle avait toute une tripotée d'enfants dont elle devait s'occuper, et une espérance de vie qui était de, si elles avaient passé la mortalité infantile, 40 ans ou 45 ans. Donc, si vous voulez assurer la reproduction de l'espèce, prenez toute l'énergie et tout le temps d'une femme jusqu'au début du 19e siècle. La révolution de la mortalité infantile, la bascule démographique, si vous voulez, s'est faite en France au début du 19e siècle. Elle se fait, vous voyez, petit à petit, un peu partout, et du fait que la mortalité infantile diminue et que la longévité augmente. Et donc, vous ne pouvez pas penser qu'une femme qui vit 80 ans et qui va avoir un enfant 1,8 va rien faire d'autre que rester à la maison. C'est idiot.
Certes.
Après, la question, c'est de trouver, écoutez, pour celles qui veulent quand même faire des enfants, comment la société, et ça c'est un vrai problème, moi, dont je parle depuis 20 ans, mais les gens ne m'écoutent pas beaucoup, c'est que comment, si l'ascenseur social n'est qu'à sens unique, et se fait majoritairement entre 30 et 40 ans, on est sûr qu'on exclut les femmes d'une partie de la progression sociale. Parce qu'elles font des enfants, à ce moment-là, elles s'en occupent. Même quoi qu'on raconte. Pour raconter tout ce qu'on voudra, les femmes y passeront plus de temps, d'abord parce que la grossesse, ça sera elle, ensuite l'allaitement, ça sera elle, et ensuite les tout-petits, même si on arrive à faire participer plus les uns les autres, ça sera majoritairement elle. Donc si on n'arrive pas à trouver une solution sociale, vous voyez, et je peux vous dire, jusqu'à très peu de temps, c'est Hollande qui a fait tenir compte du temps de grossesse dans le temps de retraite, de travail. Et moi j'ai obtenu auprès de Geneviève Fioraso, une chose qui m'avait beaucoup frappé, c'est que quand une fille était enceinte et faisait une thèse chez nous, eh bien, comme elle devait faire une année de plus parce qu'elle avait fait sa grossesse et qu'elle avait pris son truc, eh bien, elle se réinscrivait en thèse et qu'elle repayait son inscription en thèse. Et ça, je l'ai fait arrêter.
Bien, bravo et merci.
Si vous voulez, il y a l'ajustement, de ce point de vue-là, tu entends l'obsession féministe de dire qu'il n'y a pas de différence, il y a une différence persistante, mais l'ajustement de la société au fait que la femme est partie prenante maintenant du travail et des fonctions sociales, c'est mal fait parce que l'on n'a pas admis la nature de la féminité tout en acceptant son égalité. Vous voyez, donc c'est les femmes qui sont pénalisées. Et donc c'est aux femmes de le ressortir, ça. Vous voyez, c'est pas à moi de dire ça, mon Dieu. C'est enfin les femmes sportives, on parlait des règles. C'est extraordinaire, ça. Les femmes qui sont en âge de faire du sport, pour beaucoup, sont encore cycliques. Il y en a qui ne le sont plus parce qu'il y a des sports de très haut niveau dans lesquels les femmes ont une aménorrhée, plus de règles. Mais il y en a beaucoup qui ont encore des cycles. Et quand elles ont des cycles, leur niveau de performance ou même leur poids n'est pas le même en fonction du cycle. Elles prennent 2 kilos juste avant leurs règles, vous voyez. Et donc, cet élément-là est un élément qui n'est pas pris en compte dans le sport. Parce que le sport a été fait par les hommes et pour les hommes au départ. Et donc, quand on ajuste, dire mais les femmes sont comme les hommes, la différence c'est qu'on va les séparer, c'est pas si simple. Et dans les néo-féministes, qui m'amusent beaucoup, parce que j'aime beaucoup, encore une fois, les gens qui ont un esprit contradictoire, il s'est passé la même chose pour les thérapeutiques. On a dit, écoutez, vous nous emmerdez, vous ne regardez pas les effets secondaires chez les femmes, parce que les femmes, c'est plus dangereux à tester que les hommes, parce qu'elles peuvent être enceintes. Et donc, on fait tous les tests chez les hommes, et au bout d'un moment, on se rend compte que l'on a des ennuis avec les femmes, parce que la biologie des femmes est quand même différente. Et donc, il y a des vraies questions à poser qui sont des questions contradictoires dans un monde où on a passé une première étape par laquelle il fallait peut-être passer en disant non, c'est exactement pareil les femmes et les hommes, mais en réalité, après, la biologie est terrible parce qu'elle se fout complètement de nos opinions. Et donc, il reste de la biologie, et cette biologie, c'est aux femmes à la faire valoir. C'est très bien.
Ah bah ça a commencé avec un livre qui s'appelle « Le sexe des maladies », écrit par une certaine Peggy Sastre en 2014. Vous mentionnez comment la Révolution française a été en fait fatale aux scientifiques français, en rappelant un mot terrible du juge qui avait décidé la décapitation du plus grand chimiste de l'époque, Antoine Lavoisier. La Révolution n'a pas besoin de savants. Et on voit aujourd'hui, dans le monde académique et notamment anglo-saxon, de nouvelles formes de purges idéologiques et ce, jusque dans les sciences dures. Est-ce que cela vous inquiète?
Si vous voulez, je crois que c'est cyclique. Ça, mais en France, ça a existé et puis ça existe encore. Hein. Lazare, qui a été le directeur de l'Inserm en 1981, a viré les cinq scientifiques médecins les plus connus de France. Hein. Lazare avait décidé que quelqu'un ne pouvait diriger une unité de recherche que pendant 12 ans. Pourquoi pas 10, pourquoi pas 15, c'est un truc de fou. C'était donc pour se débarrasser des mandarins, pas plus de 12 ans. Et donc dedans, il a viré le seul prix Nobel en activité qu'on avait, qui était Dossé. Il a viré Maté, l'inventeur du traitement du cancer de la vessie, l'inventeur de l'immunothérapie anticancéreuse en pratique. Hein. Il a viré Amburger, qui était le type qui a fait les premières greffes rénales en France. Il a viré Minkowski, qui était le père de la recherche en néonatologie, si vous voulez, d'un revers de main. Heureusement, la différence, c'est qu'il restait un roi, parce qu'il restait Mitterrand, si vous voulez, qui a financé en douce, et directement, en passant par-dessus tout le monde, les travaux que Jean Dossé a commencé à mettre en place avec le Téléthon de Jean Weissenbach et Daniel Cohen, qui ont fait remettre la France dans la course du génome humain. Cette vision-là de « on n'a pas besoin de savants et on n'a pas besoin de stars dans la science », vous savez, c'est quelque chose qui est extrêmement récurrent. Mais là, comme dans tous les mondes, je pense, hein, c'est la nature. Il y a des moments où on ne supporte plus qu'il y ait des gens qui les passent. C'est comme ça, hein, c'est la vie. C'est une chose qui est intrinsèque à l'homme. C'est comme ça.
Oui, d'ailleurs, dans votre livre, on avait repéré cette citation. La haine du succès dans notre pays et le manque de gloire attachée à la recherche expliquent en partie le manque d'attraction des plus jeunes pour la recherche. Ce qui est affreux, c'est que même chez les scientifiques, s'est développée cette spécificité qui a tant sévi pendant la Révolution française, couper les têtes de ceux qui dépassent. Et d'ailleurs, en ce moment, la nouvelle loi de programmation de la recherche déchaîne la colère de certains chercheurs. Est-ce que vous voyez un rapport avec ça? Je pense notamment au collectif Sauvons la recherche que vous ciblez aussi dans votre ouvrage.
Je ne suis pas convaincu, voyez-vous, qu'il y ait un statut de chercheur. Je crois que ça n'existe pas. Je pense que la recherche, c'est une pratique. Vous savez ce que la Révolution n'aimait pas dans les universités ou n'aimait pas chez les chercheurs ou les universitaires, c'est leur liberté. Et les universités avaient développé une liberté extraordinaire qui est liée au fait que les universités avaient deux maîtres, un maître religieux et d'autre part un maître temporaire. Et donc, quand un universitaire était embêté sur le régime politique, pouf, il se tournait vers l'Église. Et quand il est embêté vers l'Église, pouf, il se tournait vers le... Tout le monde sait ça, un âne qui a deux maîtres n'a pas de maître. Bien entendu, quand on allait se tourner vers celui pour vous protéger, il était toujours d'accord pour vous protéger, pour embêter l'autre, vous voyez. Donc c'était des pouvoirs qui étaient eux-mêmes en conflit, et ça créait la liberté. Et donc la destruction de l'université a été transformée par Napoléon, en réalité, en un système d'école, de gens qui devaient obéir ou avoir une fonction. Et il est rentré dans la tête de la France et de l'université française, et moi j'ai entendu des politiques, y compris pour qui j'ai le plus grand respect, dire « l'université c'est fait pour former des métiers ». C'est pas fait, l'université, ça n'a pas été fait pour former des métiers, ça a été fait pour apprendre la connaissance. Et donc Napoléon a fait « bon écoutez, il y aura l'école de médecine, et puis l'école de droit pour faire des avocats, et puis le reste, ce sera pour faire des profs à l'école ». C'était ça l'université. Et d'ailleurs, c'est une vision qui est très claire de l'esprit de Napoléon et de la Révolution, c'est il faut faire des gens de formation rapide parce que le pays a besoin de cadres, ce qui était vrai. Et on est resté sur cette nouvelle création, et donc l'université a mis énormément de temps à évoluer pour avoir ce qu'ont toutes les autres universités d'Europe, hein, une autonomie et être le lieu de la recherche. Et donc, au fur et à mesure, pour combler les trous de la recherche, on a créé des instituts qui se sont succédés les uns après les autres pour pouvoir se substituer au manque de recherche dans les universités. On a créé le CNRS, et puis le CEA, et puis l'INSERM, et puis l'INRA. Et puis, vous voyez, alors que dans les autres pays, tout ça est dans les universités. C'est les universités qui font ça. Et donc, il y a une vraie évolution qui date de la Révolution française, qui s'est traduite par une baisse générale hein, du niveau scientifique de la France, qui était le premier pays de très très loin au XVIIIe siècle. Hein. Et donc, petit à petit, l'abandon de la recherche dans les activités banales, normales de l'université a posé problème, et a posé un problème qui a été résolu plutôt par des expédients, c'est-à-dire en multipliant les nouveaux instituts. Mais là, de définir à travers ces instituts qui ont été créés que votre métier, c'était de faire la recherche, entièrement de la recherche et que de la recherche, ça présume que de 30 ans à 60 ans ou à 65 ans, si on se repousse l'âge de la retraite, eh bien, vous allez faire de la recherche. Mais ce n'est pas écrit, ça. Hein, parce que la recherche, c'est un goût, c'est une nature et elle s'évanouit chez beaucoup de gens. Elle disparaît au fur et à mesure chez beaucoup de gens. Il faut être curieux, un peu naïf, un peu puéril pour faire de la recherche. Et si vous perdez le goût de l'enfance, le goût de la curiosité, vous perdez le goût de la recherche.
Pour finir, vous pointez plusieurs erreurs commises par des ministres de la Santé dans votre livre, liées notamment à ce que vous qualifiez de dictature des pompiers. Donc, pour résumer, c'est une angoisse née de la surévaluation permanente des risques anecdotiques qui finit par nuire à notre niveau de vie. Est-ce que vous pouvez nous en donner un exemple? Et est-ce que vous pourriez penser que la fonction même du ministre de la Santé est une absurdité, vu qu'on sait les frictions qui existent entre le politique et les scientifiques?
Je pense qu'il devrait y avoir l'équivalent du surgeon général aux États-Unis, c'est-à-dire un médecin de un poids lourd, si vous voulez, attaché directement au président de la République, qui fasse l'équivalent du discours de l'Union une fois par an sur les grands domaines de santé publique, les grandes lignes de la santé, parce que je trouve que le ministère de la Santé est très politique et il doit être très politique puisqu'il concerne un nombre de gens absolument considérable. Et si on rajoute à ça les retraites, la santé publique, tout ça devient absolument énorme. Et donc, si on ne met pas un vrai politique là-dedans, l'expérience montre que ça ne marche pas bien. Est-ce que le politique doit être un médecin pour autant? J'en suis pas sûr du tout. Je pense que c'est un vrai travail politique. Et à côté de ça, est-ce qu'il faut un médecin pour donner les grandes lignes de santé publique ou les grandes lignes de la priorité de la santé? Moi, je crois que c'est bien qu'il réagisse au calme, si vous voulez, sans être, lui, sous la pression, sans être devant le Parlement, sans être sollicité par 1000 problèmes à la fois, qui consulte qui les académies, qui les scientifiques, qui les autres, pour prendre une position qui est de la hauteur et qui permette d'avoir une ligne directrice, ça me paraît très important. Moi, personnellement, je pense qu'il faudrait découpler les stratégies de moyen et long terme, d'une part, avec des gens qui n'ont pas de responsabilité ou de prise directe sur les problèmes au quotidien, et que ça manque.
Eh bien, c'est le moment de conclure hein, sur ces sages recommandations. Avant de nous quitter, je voulais juste citer une citation qui est en exergue du premier chapitre de votre livre. « Esprit de contradiction, Freuden, méfiance, joyeuse raillerie sont signes de santé. Toute forme d'absolu relève de la pathologie. » Professeur Didier Raoult, merci infiniment d'avoir rejoint les contrariantes aujourd'hui.
Merci. Écoutez, je suis toujours d'accord avec les contrariants.
Et nous donnons rendez-vous à nos auditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro.